BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
C'est le procès d'un huis clos familial absolument atroce qui s'est tenu cette semaine devant les assises de l'Hérault. Le procès de la mère et du beau-père de la jeune Amandine, morte le 6 août 2020. Une enfant martyr qui passait ses journées enfermée dans un débarras. Amandine était humiliée, frappée, affamée le jour de sa mort. Elle n'avait que 13 ans et elle pesait 28 kilos. Sa mère a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Récit d'audience, explication avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce procès avec Elisa Trana.
À la barre, elle a avoué être une mère monstrueuse. Sandrine Pissara a enfin reconnu les actes de torture et de barbarie qui ont conduit à la mort de sa fille. À 13 ans, Amandine ne pesait plus que 28 kilos. Les médecins légistes n'ont pu que constater ses yeux enfoncés, ses dents cassées, ses cheveux éparses.
Comme en plus elle avait des lésions cutanées, eh bien, les germes sont rentrés par ces lésions cutanées et des germes particulièrement agressifs qui contaminent en général les sujets dénutris, s'entraînent une septicémie.
Dès l'âge de 2 ans, la petite fille devient le souffre-douleur de sa mère à cause notamment de sa ressemblance avec son père dont Sandrine Pissara est séparée. Les gifles, les tirages de cheveux et les privations de nourriture font partie du quotidien, comme le raconte le petit frère d'Amandine.
Ma mère frappait sa tête contre les murs pour un oui ou pour un non. Moi aussi j'étais frappée, mais moins qu'elle.
Dans cette petite rue Rousseau, Amandine passe la plupart du temps enfermée dans un débarras, sans manger, contrainte de noircir des lignes d'écriture jusqu'à l'épuisement. Sa mère l'oblige à vivre nue pour éviter qu'elle cache de la nourriture dans ses vêtements. Ses seuls moments de répit, c'est à l'internat du collège, alors quand le confinement est décrété. La petite victime comprend que le piège va se refermer sur elle.
Elle s'est effondrée en larmes. Et en fait, elle ne parlait pas juste, elle était en sanglots. Et en fait, elle m'a dit « je vais mourir ». Frappée, oui, on s'en doutait. Un signalement a été fait, puis un autre. On en a fait 3 en total dans l'année.
Ces signalements, comme tous les autres déposés depuis l'école primaire, n'ont pas donné lieu à des suites pénales. Il aura fallu attendre la mort d'Amandine le 6 août 2020 pour que ses bourreaux, sa mère et son beau-père, soient mis hors d'état de nuire.
Le procès de l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot, évidemment, pour évoquer ce procès qui s'est tenu cette semaine, sur lequel on va revenir avec Emmanuel Anison. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter au Nouvel Obs. Vous avez couvert ce procès. On a pu vous lire et évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser avec Laurent Valdiguier. Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe.
Il m'accompagne cette semaine. D'abord, les procès, c'est toujours aussi, même pour les journalistes, un moment humain. Cette affaire, elle est particulièrement terrible. Comment vous l'avez vécu humainement?
Oui, il y a eu des moments très compliqués lors de ce procès, et notamment un moment où, en fait, où le président du tribunal a tenu à montrer les images de cette petite fille, parce que tant que ça reste en fait théorique, on est dans son métier, et c'est vrai que quand on voit ces images qui étaient absolument épouvantables, hein, vraiment d'une petite fille qui était enfermée dans un cagibi avec un corps famélique. Quelqu'un pendant le procès a parlé des images sorties de camp. C'est-à-dire que on se dit c'est pas possible, mais quand on voit le corps, on voit ce corps qui n'a plus que des os sur le squelette. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de journalistes qui ont un peu basculé à ce moment-là. Beaucoup d'entre nous, on a pleuré parce que juste, on reste évidemment humain et que c'est inimaginable de penser que cette petite fille dans cet état-là était regardée à travers une caméra de surveillance par sa mère qui tricotait devant et par son beau-père que tout le monde qualifiait d'employeur modèle de citoyen honnête et d'homme extrêmement gentil et qui disait je n'ai pas vu. Et tant qu'il disait je n'ai pas vu et qu'on n'avait nous pas vu ces images, on pouvait imaginer qu'il n'avait pas vu. Mais quand on voit ces images d'une fille nue en plus parce qu'elle était maintenue nue avec vraiment ce corps totalement décharné et dont on voyait bien qu'il était aux portes de la mort, on ne peut pas juste rester journaliste à ce moment-là. On est humain et on se dit comment peut-on arriver à cette horreur qui est une horreur de gens qui, quand on les regarde à la barre, semblent vraiment l'impression d'avoir des personnes totalement lambda.
Il faut que vous nous racontiez ce qu'elle a vécu parce que ce procès a permis de comprendre, d'imaginer le calvaire qu'elle a vécu. Quel était son quotidien?
Alors, cette petite, depuis enfant, depuis 3 ans, il y a des marques de maltraitance sur cette petite, hein, des bleus à l'école, des cheveux arrachés, voilà. Donc elle a vécu un quotidien qui est un quotidien d'enfant maltraité, comme ses frères et sœurs, mais elle était le vilain petit canard et donc elle était l'objet particulièrement de la violence de cette maman. Mais avec le confinement, quelque chose a basculé puisqu'elle s'est retrouvée dans un face-à-face familial. Et là, la maltraitance s'est accentuée. Et elle s'est accentuée dans ce huis clos absolument terrible qu'est le confinement. Mais elle a continué même au-delà du confinement pendant 6 mois. Et cette petite fille, c'était alors des coups, ce qu'elle avait toujours vécu, des coups de balai, des punitions pendant des heures où elle était à genoux sur un rouleau dur qui faisait que ça lui meurtrissait les genoux. Et puis surtout... elle était obligée aussi de faire le ménage toute nue parce que sa mère disait qu'elle volait la nourriture et pour cause puisqu'elle était affamée. Mais donc en fait, elle était obligée d'être toute nue toute la journée, ce qui est pour une petite fille de 13 ans, vous imaginez ce que c'est. Et puis elle était enfermée dans un cagibi. En fait, au fur et à mesure des jours du confinement, elle a été enfermée. C'est-à-dire qu'au début, elle était encore au bout de la table de la famille, à manger différemment des autres enfants, comme punition. Et puis au fur et à mesure, en fait, elle s'est effacée. Elle s'est effacée, elle est restée dans ce cagibi, enfermée, surveillée par ses caméras de surveillance, affamée, peut-être même assoiffée, on ne sait rien. Et elle a disparu, y compris aux yeux de ses propres frères et sœurs, qui ne la voyaient qu'à travers ses caméras de surveillance. Et donc, on imagine la torture que c'était, sachant qu'en plus, elle était à côté d'un congélateur avec des aliments congelés qu'elle avait sous les yeux en permanence, qu'elle ne pouvait pas manger. Et elle a vécu en plus avec cette solitude absolument extrême, parce que tant qu'il n'y avait pas eu de confinement, il y avait encore ce rapport de force avec l'école où elle était en internat, où elle pouvait se récupérer, voler des goûters, manger, alors que là, elle se retrouvait évidemment totalement abandonnée à la seule folie en fait de sa famille, de sa maman, pardon, avec la complicité plus ou moins active du beau-père et de ses propres frères et sœurs. Donc on imagine le désespoir moral de cette petite.
Oui, parce que ce qui signe le fait que tout le monde savait, ce sont les dernières heures. Parce qu'ils se rendent compte qu'elle est mourante dans les dernières heures. Ils se rendent compte qu'elle est presque morte, hein, Amandine. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'appellent pas la police, ils n'appellent pas les pompiers. Ils la maquillent, ils la douchent, ils essayent de lui donner à manger. Et au fond, dans ces dernières heures, qu'est-ce qu'ils maquillent? Pas Amandine, ils maquillent leur propre crime. Leurs 10 ans, comme vous l'avez dit, Manuel, de sévices, de supplices. Et là, on se dit, mais pourquoi cette fratrie? Il y a 8 frères et sœurs. Hein, ils sont, je crois qu'elle a 8 enfants de 3 maris différents.
Oui, alors dans la maison même, il y avait un frère et une sœur de 10 et 14 ans.
Pourquoi toute cette fratrie n'a pas bougé plus tôt?
Alors, parce que d'abord, la fratrie était elle-même violentée. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui eux-mêmes ont subi tous les violences de la maman. Donc, il y a ce rapport, évidemment, victime-parent. Enfin, c'est très compliqué. Il y a la loyauté d'un enfant par rapport à ses parents, à sa maman. Il y a aussi cette peur d'être séparé de ses parents. Eux-mêmes le disaient. Ils avaient peur d'être placés en accueil. Ils avaient peur des représailles. C'est-à-dire que dire qu'il y a des problèmes, ça peut aussi, après, subir des représailles et des punitions encore plus importantes. Il y a quand même une parole, hein, pendant toutes ces années. C'est-à-dire que Amandine elle-même, et c'est ça qui est complètement fou dans cette histoire. Et c'est là aussi que cette histoire dépasse le simple, comment dire, fait divers sordide. Il y a un problème sociétal derrière tout ça, c'est que cette petite fille a été abandonnée. On en parlera après.
Et parler aussi des alertes qu'elle avait données au collège.
Voilà, elle a parlé.
Il y a beaucoup de questions.
Cette petite fille a osé parler, justement.
On va accueillir Maître Florent Médicot. Bonjour, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes l'avocat du père biologique d'Amandine. On a parlé de sa mère, on a parlé de son beau-père. Vous êtes l'avocat du père biologique. D'abord, clarifions quels étaient ses liens et ses rapports avec Amandine. Il n'a rien vu, il n'a rien su.
Alors, il y a eu plusieurs étapes tout au long de l'existence et d'Amandine et de mon client. Sur les trois dernières années concernant la vie d'Amandine, il ne l'a effectivement plus vue. Mais faut connaître le dossier en totalité pour comprendre qu'en réalité, c'est issu d'une manipulation de Madame Pissara qui n'a eu que de cesse que d'écarter mon client de la vie de sa fille. Et à partir de 2017, elle y est arrivée. Elle y est arrivée en manipulant l'autorité judiciaire notamment, et en parvenant à une restriction telle des droits de visite et d'hébergement de mon client qu'il n'était pas même en mesure de les exercer d'une part, et d'autre part, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir, elle indiquait à ses enfants que leur père ne voulait plus les voir. Donc si vous voulez, il y a eu un espèce de cercle vicieux organisé, fomenté par Madame Pissarra, qui fait que les enfants pensaient que leur père ne voulait plus les voir. Et leur père, de leur côté, essayait de les voir avec, en retour, « Ah mais papa, tu veux pas nous voir, tu ne t'occupes plus de nous, tu ne payes pas la pension alimentaire. » Ce qui était faux. Et donc, une rupture des liens quasi totale sur ces 3 années concernant Monsieur Florès.
Comment a-t-il vécu ce procès? Comment a-t-il accueilli le verdict, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans pour la mère d'Amandine?
Le procès a été très difficile à vivre. Très difficile à vivre parce que, d'une part, il a été confronté à une réalité dont il avait connaissance, mais à une réalité niée de la part des co-accusés. Il est aussi venu porter sa culpabilité à la barre en reconnaissant avoir lui-même été sous le joug de Madame Pissarra au moment, d'une part de la vie commune, mais d'autre part, il y a une période de séparation où il s'entendait quand même pour voir les enfants et exercer.
Il restera un élément sur lequel, d'ailleurs, il aura peut-être à s'expliquer.
Alors, il n'aura pas à s'expliquer dans la mesure où il y a une information judiciaire, qu'aucune charge n'a été reconnue à son encontre et qu'il a parfaitement expliqué les choses. Ce qui est paradoxal dans ce dossier, c'est qu'on a senti plus de culpabilité du côté des bancs de la partie civile que du côté des accusés. Donc lui pense à sa fille tous les jours. Il sait que il y a un moment où il aurait dû lever la tête. Ça remonte à des années, et au moment où il a décidé de lever la tête, c'est-à-dire dans les années 2017, c'est l'autorité judiciaire qui lui a dit « Monsieur, on ne vous croit pas, on estime que vous ne voulez pas voir vos enfants, et votre femme, on lui donne blanc-seing pour s'en occuper. »
Je vais reprendre votre expression « personne n'a levé la tête ». À l'école, il y a cette scène absolument terrible, juste avant le confinement, parce qu'on a bien compris que le confinement avait été un accélérateur, où Amandine, quand elle apprend le confinement, dit au collège « c'est fini pour moi, je vais mourir ».
C'est ça qui est terrible, c'est que cette petite fille, elle a été abandonnée, désolée, mais par les adultes autour d'elle, y compris les adultes hommes, qui effectivement étaient sous emprise de cette maman, telle que le beau-père, mais aussi telle que son père, sans doute, mais elle a été abandonnée par les adultes, les hommes, qui auraient dû la protéger, qui ne l'ont pas fait, et puis les institutions. Et dans l'institution, il y a effectivement l'école, puisque plusieurs fois, elle a donné l'alerte, plusieurs fois, il y a eu des signalements, donc il y a quand même eu une prise de conscience de certaines écoles dans lesquelles elle était, mais à ce moment-là, la justice n'a pas suivi. Et effectivement, on arrive à ce moment du confinement, elle a 13 ans, elle a déjà parlé plusieurs fois, ça n'a jamais été suivi des faits, jamais il y a eu de mesures d'assistance éducative pour la protéger, elle et ses frères et sœurs, mais elle particulièrement, malgré ses alertes. Et là, elle sait que ce confinement va être terrible. Elle le pressent, c'est ça qui est dingue. Et donc, elle crie dans cette cour. Les enfants, eux, sont ravis parce qu'ils savent qu'ils vont avoir 2 mois de vacances. Et elle pleure, elle est assise dans la cour, elle pleure. Et autour d'elle, ses camarades, ses amis pleurent parce qu'elle leur a déjà parlé. Parce que à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, le week-end, elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle allait être affamée, elle savait qu'elle allait être battue. Et donc là, elle a senti qu'elle était extrêmement en danger. Donc elle pleure et il y a une surveillante qui est là, qui voit ses pleurs, mais le collège, en fait, à ce moment-là, est dans une situation, on le sait, très particulière. Le confinement a mis tout le monde dans une situation très particulière. Mais là où on peut vraiment se poser la question, c'est que pendant le confinement, elle ne s'est pas connectée, alors que les autres élèves s'étaient connectés. Et à la fin du confinement, au bout de 2 mois, elle était vivante, Amandine. Elle est morte que 4 mois après. Et à la fin du confinement, des élèves sont rentrés. Elle n'est pas rentrée. Des élèves sont restés en distanciel, mais ils ont été chercher leurs affaires. Elle n'est pas allée chercher ses affaires. Sa maman n'est pas venue chercher ses affaires. Elle n'a pas donné signe de vie.
Tout
le système éducatif savait qu'elle était en danger et personne n'est allé frapper à sa porte.
Mais est-ce qu'à quelqu'un à l'audience est venu rendre compte de ça, s'expliquer, s'excuser?
On a eu quand même la surveillante qui est venue témoigner, qui n'avait pas été auditionnée lors de l'information judiciaire. Et alors, un mot, vous me questionniez sur mon client. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand Amandine semble en réalité presque pressentir ce qui va arriver, c'est ça qui est terrible, elle va se tourner vers son père. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il lui est interdit ou caché par sa mère que de savoir que son père veut la revoir, et on a un appel de 3/4 d'heure durant lequel elle appelle son père, elle lui dit « Papa, je t'aime, je vais bien, je t'explique ce que je fais, je reprends contact avec toi, il faut qu'on se voie, etc. »
Et lui ne sent pas à ce moment-là l'urgence.
Parce qu'Amandine, en fait, ça a été dit de manière très juste, à mon avis. Amandine aimait profondément son père. Je pense que c'est aussi ce qui a participé de son calvaire face à sa mère. Et sur cet appel téléphonique, elle le préserve très certainement de ce qui est en train de lui arriver. Il faut savoir que les experts ont déterminé... On s'est beaucoup posé la question du comportement de cette maman dans ce dossier. Il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est que cette petite était profondément attachée à son père. Et le deuxième élément, c'est qu'elle s'est levée contre la tyrannie de sa mère. Et c'est une petite résistante, en réalité, qui a subi la rage d'une forme de totalitarisme familial.
Je voudrais qu'on dise un mot pour conclure de cette mère, qui reste quand même un mystère. Elle a très peu parlé, elle a eu beaucoup de mal à reconnaître les faits, elle a fini par le faire, j'ai envie de dire à minima, je parle sous votre contrôle. Elle a eu cette phrase, je suis une mère monstrueuse, mais c'est à peu près les seuls sentiments, s'il y avait encore des sentiments dans cette phrase. Qui est-elle ?
Alors ça restera un mystère, puisque les experts psychiatriques disent que ce n'est pas une psychopathe.
Oui.
Elle a pleuré à un moment, c'était sur son propre sort, qui était de celle, effectivement, elle a eu des actes de violence dans son enfance. Et donc elle s'est beaucoup étendue à ce moment-là. Et à ce moment-là, elle a pleuré. Mais quand les images de sa fille étaient diffusées lors de l'audience, elle a gardé, et pendant d'ailleurs toute l'audience, elle a gardé les yeux baissés obstinément, absolument pendant les 5 jours. Donc, et en ne montrant vraiment aucun affect. Donc c'est vrai que cette femme reste un mystère. Et c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que la question au-delà de la psychopathie de cette femme, enfin, qu'on ne résoudra pas, que personne n'a résolu, il y a la défaillance de la société. Parce que des gens pervers, des gens toxiques, des gens maltraitants, on en aura. En revanche, que la société, y compris les adultes autour d'elle, parce que son père, à partir du dernier coup de téléphone en mars, ne l'a jamais eu au téléphone ensuite, jusqu'au mois d'août.
Non, il a eu quand même des nouvelles de la part de la mère, qui, toujours dans ce même esprit, lui a envoyé notamment un message lui indiquant « Ne t'inquiète pas, les enfants, on est dans le courant du mois de juillet. Les enfants vont bien, ne t'inquiète pas. » Ça va aller.
En tout cas, les adultes ont été défaillants. Profondément, je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est celle-ci. Il y avait 4 ou 5 associations de défense des enfants qui étaient là au procès. Ce n'est pas pour rien. Et donc, on a, nous, collectivement, encore tellement à faire sur ces enfants qu'on appelle des enfants transparents. Des enfants qui sont... en fait, Amandine s'est effacée.
Et elle n'est pas transparente, il y a son visage derrière vous. Et c'est aussi l'image qu'on gardera de ce procès absolument terrible. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur le plateau d'Affaires Suivantes.